Eh bien, nous voilà arrivés à la dernière méditation sur le Notre Père. Cette dernière demande, délivre-nous du mal. Et on peut joindre à cette demande l'embolisme que le prêtre ajoute à pendant la prière liturgique. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y a une petite lettre de Saint Paul, une petite phrase de Saint Paul que je mets en tête de cette méditation. Le Seigneur, c'est l'Esprit, dit Saint Paul. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Il va être forcément question de liberté, puisque c'est vraiment cette demande. Délivre-nous, rends-nous libres. Délivre-nous de tout mal. Délivre-nous du mal. Et terminons aussi avec Saint Augustin qui s'exprime dans la lettre à Proba. Lorsque nous disons « délivre-nous du mal », nous rappelons à nous-mêmes qu'il ne faut pas nous croire établis dans ce lieu où nous n'aurions plus à souffrir aucun mal. Il ne faut pas nous croire déjà dans le paradis, ni penser que le paradis sera pour aujourd'hui. Et cette demande placée en dernier lieu dans la prière du Seigneur a une telle ampleur que le chrétien, soumis à n'importe quelle épreuve, exprime sa plainte par elle, verse des larmes par elle, commence par elle, s'y attarde et termine par elle sa prière. Alors, pour essayer d'entrer, d'approfondir cette dernière demande, il faut commencer, qui est toute simple, hein. Il est question du mal et il est question de demander la délivrance, d'être libéré, d'acquérir une véritable liberté. Alors nous allons commencer par cette question du mal. Le mal ici désigne à la fois l'ensemble des maux et malheurs, et puis en même temps le mal qui est désigne son auteur, le malin, Satan, le diable. Voilà ce que nous demandons. Et dans la dernière demande, nous venons vraiment vers le Père, celui que nous appelons Père, Père, avec l'espérance centrale de notre foi. Sauve-nous, rachète-nous, libère-nous. Et nous voyons bien que l'ensemble des malheurs qui nous frappent, des maux, et le péché en particulier, nous empêchent de faire le bien et d'agir en enfant de Dieu. Alors, l'Église délivre-nous de tout mal, c'est-à-dire déjà de tous les maux dont l'humanité est atteinte. Et ces maux, c'est peut-être l'ensemble des malheurs physiques. On pense à une inondation, un ouragan qui ravage tout sur son passage, des populations qui le laissent complètement démunies, la famine, la pauvreté, la maladie, la souffrance. Voilà. L'ensemble de ces maux, l'Église les porte toutes dans sa prière. Elle porte toutes les détresses du monde devant le Père. Hein, il faut bien penser que nous avons commencé notre prière en disant « Notre Père » et pas simplement « Mon Père » mais « Notre Père ». Et nous sommes de fait unis à l'ensemble de cette humanité souffrante. Nous ne parlons pas uniquement de nos propres maux à nous. Et souvent, par rapport à nos propres malheurs, par rapport à nos propres difficultés, il faut aussi quitter un peu l'égoïsme de son regard tourné vers soi-même pour être uni à la souffrance de notre prochain, de ceux qui sont autour de nous. Nous avons parlé du péché ne nous soumet pas, ne nous induit pas en tentation, ne nous laisse pas succomber à la tentation. Nous avons parlé du péché qui est la première sorte de mal, mais il y a aussi toutes les autres, bien sûr, toutes les autres adversités. Pourquoi? Parce que tout simplement le mal empêche l'homme d'être heureux, d'accomplir, d'arriver à son plein épanouissement. C'est-à-dire de réaliser sa vocation d'enfant de Dieu. Vous voyez, c'est ce qu'on demande dans la liturgie. Il y a certaines liturgies, disait le cardinal Barbarin, qu'il a pu découvrir au long de ses voyages, notamment à Madagascar, où, au moment de l'embolisme, « Délivre-nous de tout mal, Seigneur », le prêtre s'arrête, et puis tout le monde exprime l'ensemble des maux dont ils sont touchés. Délivre-nous de l'épidémie, voilà. Délivre-nous de la sécheresse, délivre-nous de des torrents dévastateurs qui nous touchent, etc., etc. Vous voyez? On laisse aller un peu cette l'expression. On lui donne un corps, on lui donne du contenu. Vous voyez? Et ça renforce cette dernière demande du Notre Père par des choses très concrètes, très précises. Et en même temps, dit le cardinal Barbarin, nous devons considérer cette extension de la dernière demande du Notre Père comme un examen de conscience qui nous est adressé. Un examen de conscience. Examinons l'ensemble de ce qui de ceux dont on veut être délivré. Examinons véritablement nos demandes. Et nous demandons donc que l'ensemble des maux qui nous touchent n'est pas le dernier mot, mais que nous en soyons vainqueurs. Vainqueurs. Et dans ce sens, on voit aussi Je le relis à la dernière demande qu'on avait étudiée. L'épreuve, on découvre que l'épreuve nous purifie. Saint Jacques commence son épître ainsi dans le premier chapitre. Quand vous luttez sur toutes sortes d'épreuves, hein, c'est le Jacques 1, 2, 4. Chapitre 1, versets 2 à 4. « Quand vous butez sur toutes sortes d'épreuves, pensez que c'est une grande joie. » C'est quand même fort, hein, d'entendre cela. Quand même. « Quand vous butez sur toutes sortes d'épreuves, pensez que c'est une grande joie. Car l'épreuve, dit-il, qui vérifie la qualité de votre foi, produit en vous la persévérance. » Et la persévérance doit vous amener à une conduite parfaite. Ainsi, vous serez vraiment parfait, il ne vous manquera rien. Il faut prendre le temps de méditer ce petit passage de Saint Jacques, cet épître. Ça vient tout de suite après l'adresse et la salutation. Je redis dans une autre formulation, « Tenez pour une joie suprême, mes frères, d'être en but à toutes sortes d'épreuves. » En quoi c'est une joie? C'est une joie dans le sens où l'épreuve va purifier notre foi. Dans l'épreuve, on l'avait vu la dernière fois, je témoigne de ma fidélité et de ma confiance en Dieu. En lui. Et donc il faut bien remettre déjà cette phrase de Saint Jacques, cette lettre de Saint Jacques dans son contexte. Quand Saint Jacques écrit cette épître, il l'écrit aux chrétiens de Jérusalem qui ont tendance à partir de Jérusalem parce que l'atmosphère y est extrêmement tendue. Hein. On est très 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 proche de des troupes romaines qui vont envahir Rome, les années 70. Et donc, Saint Jacques voit bien cette fébrilité, cette inquiétude, cette anxiété. Et il sait que les chrétiens sont mis à l'épreuve. Il sait que l'Église elle-même est mise à l'épreuve. Donc, Saint Jacques ne parle pas de telle ou telle petite épreuve individuelle de chacun. Il parle de cette grande épreuve que l'Église traverse à Jérusalem, au moment où il y a des tensions dans tout l'Empire romain. Et ce sera la même chose, parce que les chrétiens vont peu à peu partir dans la campagne, dans la Samarie, dans la Judée. Et ça va être l'occasion de l'expansion du christianisme, en fait. Donc, vous voyez, on sentait la persécution romaine arriver, une persécution sanglante. Cette persécution sanglante qui n'est pas forcément celle de l'Europe d'aujourd'hui, mais qui est celle d'autres chrétiens dans le monde. L'Église continue d'être persécutée. Il suffit de voir en Extrême-Orient, en Inde aussi, particulièrement dans certaines provinces d'Inde, de l'Inde où les chrétiens sont persécutés et d'une façon souvent sanglante, l'ensemble des églises orientales aussi, dont il est question très souvent dans les bulletins de l'aide à l'Église en détresse. Enfin, on voit bien que nous ne sommes pas sous une persécution sanglante, mais qu'il y a d'autres peuples et d'autres chrétiens qui, eux, le sont. En Europe, il s'agit d'une autre persécution beaucoup plus subtile. Le professeur Jérôme Lejeune disait: aujourd'hui, les chrétiens ne sont plus forcément mangés par les lions ou crucifiés, voilà, mais il y a un ostracisme. On met les chrétiens de côté. Et lui, il savait de quoi il parlait, puisque plusieurs fois, les chaînes de télévision ou de radio ne souhaitaient pas le faire parler. Donc on voit bien, et on voit bien où sont les combats aujourd'hui, notamment les combats sur la défense de la vie, sur la dignité de la vie humaine, etc. On voit bien qu'il y a de toute façon différentes sortes de persécutions. C'est pour ça que quand on dit la prière délivre-nous du mal, on se hausse à la demande de toute l'Église, pas simplement de chacune de nos épreuves. Il ne faut pas avoir, parce que c'est vraiment une tentation, je crois, dans le monde d'aujourd'hui, dans l'Occident d'aujourd'hui, dans l'Europe d'aujourd'hui, de faire de la foi quelque chose de vraiment très individualiste, de la vie d'une façon très individualiste, individuelle et portative. Et non, nous sommes les membres d'un corps, et ce corps, c'est l'Église, et tout ce que nous vivons, chacun comme membre de ce corps, eh bien, nous l'offrons pour toute l'Église, en communion avec toute l'Église. Et ça nous renseigne aussi sur ce que c'est que la foi comme acte et comme vie, comme vertu. La foi, c'est une vertu que nous exerçons au milieu des épreuves. Divo Barsotti, qui est un des grands exégètes spirituels du XXe siècle, Divo Barsotti a écrit un très beau commentaire sur ce passage de la lettre de Saint Jacques que je viens de vous lire. Et voilà ce qu'il dit. La foi n'est pas une adhésion à des vérités abstraites, comme on récite son catéchisme, si vous voulez. Elle est confiance en Dieu, abandon à un Dieu qui n'oublie jamais ce qui se fit en lui. Confiance et abandon dans les actes de ma vie, dans ce que je vis actuellement. Elle est la fermeté sereine d'une âme qui se garde fidèle à Dieu, même dans l'épreuve. Elle est donc fidélité et confiance. La foi que les épreuves rendent robuste est précisément la fidélité au Seigneur et la confiance en lui. De cette confiance et fidélité au Seigneur découle pour l'âme cette patience cette patience qui, devenant sagesse chrétienne, est une grande vertu. La foi devient patience et donc espérance. Voyez, on a ces deux couples, fidélité, confiance, patience, espérance. La foi est fidélité et confiance dans les épreuves et elle se vit dans la patience et elle nourrit notre espérance. Il possède tout celui qui possède Dieu dans les épreuves. Il possède tout celui qui possède l'amour. La vraie richesse du chrétien est l'amour. C'est toujours Barsotti. Non pas un amour qui nous comble, dont nous nous sentons remplis, mais un amour qui se manifeste dans la patience et qui est le don de nous-mêmes. Un amour semblable à l'amour du Christ mourant pour nous sur la croix. Être les disciples du Seigneur, être les disciples du Christ, c'est vraiment contempler le chemin par lequel le Christ lui-même est passé et auquel nous rebiffons souvent. Nous sommes capables de demander beaucoup de choses pour nous-mêmes, mais quand se présente la croix que le Seigneur nous tend, nous disant « Veux-tu, veux-tu, acceptes-tu de passer par là ?» Nous rebiffons parce que c'est là que se révèle, si vous voulez, notre fidélité, notre confiance, notre patience, notre espérance. Et le pape Benoît XVI précise d'ailleurs dans sa, si vous voulez, dans son commentaire sur le Notre Père. Benoît XVI n'a pas peur de le dire. Les malheurs peuvent être utiles à notre purification. Mais le mal, lui, est destructeur. C'est pourquoi nous demandons profondément que ne nous soit pas arrachée la foi qui nous fait voir Dieu dans les épreuves. Voilà ce que nous demandons. Que la foi ne nous soit pas arrachée dans les épreuves. La foi qui nous fait voir Dieu, qui nous unit au Christ. Vous avez cette très belle phrase de saint Paul dans la seconde lettre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 9 et 10. 2 Corinthiens 12, 9, 10. Vous savez, c'est tout le grand passage sur la faiblesse. 12, 9, 10, et pour que l'excellence de ces révélations ne m'enorgueillisse pas, dit saint Paul, il a été mis une écharde en la chair, un ange de Satan chargé de me souffleter pour que je ne m'enorgueillisse pas. À ce sujet, par trois fois, dit saint Paul, j'ai prié le Seigneur pour qu'il s'éloigne de moi. Vous voyez, saint Paul, il est clair, il est concret, il est pratique. Il vit une épreuve, une écharde dans la chair. Qu'est-ce que c'est que cette écharde? On ne le saura pas, on ne le saura jamais, parce que nous pouvons nous-mêmes ainsi mieux nous identifier à saint Paul. Vous voyez, ces petits travers qui nous gênent, ces défauts, ces difficultés de caractère, ce manque de patience, je ne sais pas trop quoi. Bon. Contre lequel il faut lutter. Saint François de Sales a lutté toute sa vie contre son caractère colérique. Et il a tellement lutté qu'on avait vu sous son bureau le plancher complètement usé, tellement il se retenait. Alors, on lutte nous-mêmes contre des échardes que l'on a dans la chair. Et on a raison de demander, comme saint Paul, par trois fois, j'ai demandé... j'ai prié le Seigneur pour qu'il s'éloigne de moi, pour que ce mal s'éloigne de moi. Délivre-moi de ce mal. Mais le Seigneur m'a déclaré, ma grâce te suffit, car la puissance, ma puissance, se déploie dans ta faiblesse. Ne pas avoir peur de l'épreuve et se dire que c'est le lieu où la puissance du Seigneur va se révéler si nous lui faisons confiance et si nous faisons sa volonté, si nous sommes attentifs à sa volonté et que nous voulons la réaliser. Encore faut-il, vous voyez, on a un devoir aussi de la connaître, cette volonté. Comme le dit d'une façon très très juste le père d'Escouvemont, quand vous avez mal à la tête, bien sûr vous pouvez prier le Seigneur pour qu'il vous guérisse de ce mal de tête, commencez donc par prendre un aspirine. Vous prenez un aspirine et puis ensuite, il faut quand même être très réaliste, très concret. Vous avez mal quelque part, vous commencez à aller voir le médecin. Ensuite, vous priez. Toujours agir comme si tout dépendait de nous et prier comme si tout dépendait de Dieu. Saint Ignace, je l'avais dit dans l'un de nos entretiens. Toujours agir comme si tout dépendait de nous, mais prier comme si tout dépendait de Dieu. C'est pourquoi, dit Saint Paul, je me comblais, c'est donc de grand cœur que je me glorifierai surtout de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. C'est pourquoi je me complais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions et les angoisses endurées, pas n'importe comment, hein, dans les outrages endurés pour le Christ. Pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc c'est 2 Corinthiens 9, 2 Corinthiens chapitre 12, il y a plusieurs chiffres, 2 Corinthiens chapitre 12, versets 9 et 10. Mais on demande d'être délivré des malheurs, l'Église prend sur elle tous les malheurs du monde. Elle les prend dans sa prière et elle se tourne avec confiance vers le Père et en même temps elle demande cette grâce de la patience, de la persévérance par lequel elle est purifiée dans sa foi, toute l'Église et nous-mêmes qui en sommes les membres, mais en même temps elle demande d'être délivrée de l'auteur du mal, c'est-à-dire le malin, le diable, Satan. Et ça c'est important. Parce que nous entrons dans la prière même de Jésus, la prière sacerdotale de Jésus, en Saint Jean. Jean 17, 15. Jean 17, 15. C'est vraiment la prière insistante de Jésus pour ses disciples. Père, garde-les du mauvais. Il ne dit pas simplement des malheurs ou du mal. Garde-les du mauvais. Garde-les de Satan. J'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille pas. Nous savons, et c'est une vérité de foi, une vérité de la révélation, nous savons que le mal a un nom. Nous savons qu'il est une personne, et qu'une personne, c'est une personne angélique. C'est l'ange déchu, Lucifer. Qui est un archange, d'ailleurs, un des anges les plus proches de Dieu. Lucifer, ça veut dire lumière, lumière de Dieu, mais qui a voulu se complaire dans sa propre lumière, qui s'est choisi lui comme fin et qui a refusé de s'ordonner au dessein de Dieu. Et le but de Lucifer, le but du diable, le but de Satan, c'est de disqualifier la création, de chercher à disqualifier la création. Et c'est important de croire à son existence. Il est important de savoir que l'homme n'est pas le seul à porter le fardeau du mal. Le sentiment de la culpabilité est tellement grand. Il est important de savoir, comme le dit c'est tout l'enjeu aussi du livre de l'Apocalypse, vous savez, avec le dragon. Le dragon contre la femme, qu'est l'Église, qu'est la Vierge Marie. Il y a tout un symbolisme ici de la femme, qui est contre laquelle il ne peut rien, et qui engendre son fils. Elle est conduite au désert dans cette attente de l'enfantement. Le symbole de l'Église qui attend, vous voyez, la fin, l'eschatologie, le jour où elle sera complètement délivrée du mal. Donc il est important de savoir que l'homme n'est pas le seul pécheur devant Dieu, qu'il y a un combat beaucoup plus grand d'ordre cosmique qui se joue beaucoup plus profondément au-dessus de nos têtes. Et que l'homme pécheur, Adam, est le jouet au départ d'une opposition des anges, de certains anges, contre Dieu, et qui veulent montrer à Dieu que sa création est un échec, que ce petit homme fait de terre et de boue, dans lequel il a voulu manifester son image et sa ressemblance, est un échec. C'est important de savoir ça, parce que ça fait partie de la révélation et ça fait partie donc de la bonne nouvelle. Le diable contrecarre les plans de Dieu. Dès l'origine, il est le père du mensonge, il est menteur dès l'origine. C'est par lui que le mal et la mort sont venus dans le monde. On le dit dans la Semaine Sainte. On le dit dans le livre de la Sagesse. Donc tout le mal ne repose pas sur les épaules de l'homme. C'est ça la bonne nouvelle. C'est de penser qu'il n'y a pas non plus un Dieu mauvais, un principe du mal. Qu'il n'y a pas deux entités, comme le pensait le manichéisme, un Dieu bon et un Dieu mauvais. Qu'il n'y a pas un Dieu bon et une création mauvaise. Mais qu'il y a dans tout l'ordre du créé des êtres qui se sont rebellés contre le dessein de Dieu, la volonté de Dieu. Et nous savons aussi que le Christ en est vainqueur. Et donc, vous voyez, si le démon vient me tenter, pour m'inciter à faire le mal. Bien sûr, je porte la responsabilité de ma faute, de mon péché, que je dois confesser. Mais c'est d'abord lui qui me fait du mal par son mensonge. C'est d'abord lui. C'est ça qui est important de voir. Pour ne pas sombrer dans le désespoir. Beaucoup peuvent sombrer, avoir cette tentation du désespoir. Je suis tellement enchaîné par tel péché, telle chose. Oui, bien sûr, créature faible, créature... Mais nous ne sommes pas... C'est pas nous qui combattons Satan, hein. C'est d'abord le Christ. Et c'est par sa grâce que nous recevons dans le sacrement du pardon, que nous ne tombons pas dans la désespérance, que nous ne tombons pas dans le désespoir, et qu'alors nous sommes vainqueurs. Quand nous nous ouvrons au pardon de Dieu, nous sommes vainqueurs. Il faut laisser le Seigneur être en nous le vainqueur du mal. Il ne faut pas penser que c'est nous qui sommes vainqueurs du mal. C'est le Christ en nous. Donc c'est d'abord lui, le démon, qui me fait du mal par son mensonge. Il me dit le contraire même de la vérité. Vous savez, ça c'est vraiment Genèse 1, ou Genèse 3, pardon, livre 3, l'épreuve de la liberté. Vous voyez comment ça se passe, hein? Satan tente Ève en lui posant une question biaisée. Alors comme ça, Dieu vous a demandé de ne toucher à aucun des fruits des arbres du jardin. Et la pauvre Ève, elle ne voit pas la peau de banane. Elle ne voit pas le piège qui lui est tendu. Alors elle commence à parler. Elle veut rectifier la question posée par Satan, alors que c'est une question très très habile. Alors elle rentre en dialogue, comme on dit. Seulement il y en a un avec lequel il ne faut surtout pas rentrer en dialogue, c'est lui. Non, 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 le Seigneur ne nous a pas dit de ne pas manger d'aucun des fruits des arbres du jardin, seulement celui-ci, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, c'est cuit. Elle est rentrée dans le jeu, elle est rentrée dans la question piège. Alors Satan continue. Comment il vous a dit ça? Mais s'il vous a dit ça, celui-là en particulier, décider du bien et du mal. Ah mais vous savez, s'il vous a dit ça, c'est qu'en fait, il a peur que vous soyez comme lui. Vous voyez? À partir d'une question fausse, on met là le doute sur Dieu. Alors Ève et Adam commencent à... Il y a un doute, il y a le surgissement d'un doute. Et finalement, si Dieu ne me permettait pas d'être libre, si Dieu ne me permettait pas d'être lui-même, si ma dépendance envers lui finissait par être un esclavage beaucoup plus qu'une libération. Alors Ève vit que le fruit était plutôt séduisant à voir, beau à voir, séduisant, beau à voir et bon à manger. Elle en goûta. Remarquez que le Christ ne discute jamais avec Satan. Sauf une fois, il lui pose la question. Qui es-tu? On m'appelle Légion, etc., etc. Parce qu'il veut lui faire dire son nom. Pour mieux chasser, d'ailleurs. Et le Christ ne discute jamais avec l'auteur du mal. C'est une grande leçon pour nous, ça, vous voyez. Parce qu'on sait qu'il ne dira jamais la vérité. Et c'est pour ça que on l'appelle le prince du mensonge, vous voyez, séducteur. Séducteur, c'est-à-dire, étymologiquement, c'est Barbarin qui le rappelle, ça. Séducteur, c'est celui qui conduit à soi. Sibi Luceré. Conduire vers soi. Il conduit l'autre vers lui. Il conduit Adam et Ève vers lui. Il les détourne. Le séducteur. Le diable est fort. Il est intelligent. Il est rusé. Il a rusé avec le Christ. Si tu es fils de Dieu, le Christ aurait bien pu dire, bah oui, je suis fils de Dieu, il faut que je le montre. Il faut que je le manifeste. Si tu es fils de Dieu, là, toi qui as faim, transforme ces pierres, ça doit être facile. Il faut penser que s'il a mis le Christ à l'épreuve, il faut bien penser que nous ne pouvons pas nous en sortir, nous tout seuls. Il est capable même de citer l'Écriture en face du Christ. Et il la connaît beaucoup mieux que nous. Beaucoup mieux. Il connaît la pensée de Dieu beaucoup mieux que nous. Parce que s'il y en a un qui a la foi, c'est bien le démon. Et oui, il n'est pas idiot. Voilà, donc si le Christ a été autant malmené, ne pensons pas que nous puissions résister aux différentes tentations de ce monde sans l'aide de la grâce. Et c'est pour ça que nous prions avec confiance, délivre-nous du mal. Délivre-nous, justement. Alors, le Christ, lui, nous délivre. Il est vraiment notre sauveur, celui qui nous a délivrés du mal. Alors, qu'est-ce que c'est que la liberté ? La liberté telle que la foi chrétienne l'entend. Vous l'avez défini dans le catéchisme de l'Église catholique, je le reprends très simplement, dans le compendium du catéchisme. La liberté, c'est le pouvoir donné par Dieu à l'homme d'agir ou de ne pas agir, de faire ceci ou de faire cela, de poser ainsi soi-même des actions délibérées. La liberté se caractérise les actes proprement humains. Plus on fait le bien et plus on devient libre. La liberté tend à sa perfection quand elle est ordonnée à Dieu. Notre bien suprême et notre béatitude. Être libre, c'est poser des actes par soi-même en vue de ce qui nous accomplit le bien. User de sa liberté pour le mal, c'est choisir ce qui nous détruit. Notre liberté est vraiment l'autonomie que Dieu nous a donnée, c'est dans les psaumes, ou dans le livre de la sagesse. Dieu a laissé l'homme à son propre conseil, c'est-à-dire Dieu lui a donné sa liberté. Dieu a laissé l'homme à son propre conseil. C'est une très belle phrase. Pour qu'il puisse par lui-même s'ordonner au bien. C'est ça, être libre. Donc, plus la liberté est ordonnée à Dieu, plus par nos actes nous nous ordonnons à Dieu comme notre vrai bien, et plus nous devenons libres. La personne la plus libre, et c'est pour ça qu'on comprend que la personne la plus libre de toute l'humanité, ça a été la Vierge Marie. Elle n'était empêchée par aucun mal, aucun vice. Et c'est pour ça qu'on comprend que c'est pas en faisant en multipliant les expériences du mal qu'on apprend à quelqu'un à être libre. C'est pas en faisant l'expérience de la drogue que vous vous libérez de la drogue. Vaut mieux pas faire l'expérience de la drogue, tout simplement. Faut savoir que c'est un mal. On n'imagine pas la Vierge Marie, on n'imagine pas Notre-Dame faire toutes les expériences pour être libre. On comprend bien que la liberté, c'est de se préserver du mal pour grandir dans le bien, parce que seul le bien nous fait grandir. Le mal nous détruit. Pas la peine d'en faire l'expérience. Le choix du mal, c'est un abus de la liberté qui nous conduit à l'esclavage du péché. Le mal nous rend esclaves. Et alors, il y a ce très très beau passage dans Gaudium et Spes, la constitution pastorale du Concile Vatican II. Il y a beaucoup qui critiquent le Concile, mais qui n'en ont même pas lu les textes. Il faut quand même les lire, ces textes sont magnifiques, sont très très beaux. Paragraphe 17 de Gaudium et Spes. La vraie liberté est en l'homme un signe privilégié de l'image divine. Car Dieu a voulu le laisser à son propre conseil pour qu'il puisse de lui-même chercher son Créateur et en adhérant librement à lui, s'achever ainsi dans une heureuse plénitude. Dieu a voulu le laisser à son propre conseil pour qu'il puisse de lui-même chercher son Créateur et en adhérant librement à lui, s'achever dans une heureuse plénitude. Mais le Concile rajoute, parce qu'il est plein de sagesse, ce n'est toutefois que par le secours de la grâce divine que la liberté humaine, blessée par le péché, peut s'ordonner à Dieu d'une manière effective et intégrale. Ce n'est que par le secours de la grâce que notre liberté retrouve sa vigueur, sa force, son exerce, sa force pour, par laquelle nous choisissons le bien. Parce que notre liberté a été blessée par le péché originel. Notre liberté, elle nous est rendue par le Christ Sauveur. Par sa croix glorieuse, le Christ a obtenu le salut de tous les hommes. Il les a rachetés du péché qui les tenait en esclavage. Il nous a rachetés du péché, et fort cher d'ailleurs. Il faut, sans dolorisme aucun, ça je vous assure, il ne faut pas de dolorisme, parce que le dolorisme est infécond. Dolorisme, c'est s'épancher, en pleurant sur la croix, etc. Mais il faut être capable de contempler la croix d'une façon belle, adulte, forte, en disant, voilà quel est le prix de mon salut. Voilà quel est le prix de ma libération. J'ai été libéré par le Christ, Dieu fait homme, qui a pris sur lui le péché, il s'est fait péché pour nous, et la conséquence du péché qu'est la mort. Il est passé par là. Et il y a cette très très belle phrase de saint Paul, Galates, lettre aux Galates, chapitre 5, verset 1. Galates 5, 1. C'est pour que nous soyons vraiment libres que le Christ nous a libérés. C'est pour que nous soyons vraiment libres que le Christ nous a libérés. Galates, chapitre 5, verset 1. Par le Christ, nous communions vraiment à la vérité. Il nous libère dans le sens où il a pris sur lui la peine que l'homme encourt en se détournant de Dieu. La peine qu'il encourt, c'est la mort. Il l'a pris sur lui. Et par ça, par son oui d'amour, par son amour, par sa fidélité, par son oui au Père, il en est sorti victorieux. Par sa mort, il a vaincu la mort et il nous a rendus à la vie. Et il nous a fait connaître ainsi l'amour du Père pour nous. L'amour du Père qui va jusque-là. Quand on contemple vraiment jusqu'où Jésus est allé, c'est là qu'on découvre c'est là qu'on découvre le mystère du Père, le mystère de la paternité. C'est celui qui fait tout pour aller rechercher son fils perdu. Le voyant de loin, c'est l'enfant prodigue, hein, le voyant de loin, le Père courut à sa rencontre et l'embrassa. Le fils perdu qui avait fait toutes les expériences possibles et inimaginables s'était rendu compte qu'il était esclave, qu'il était devenu esclave du péché. Et combien j'étais plus heureux dans la maison de mon Père. Alors il commence à s'en retourner. Mais le Père n'attend pas là les bras croisés en attendant que le fils arrive jusque-là. Il voit bien dans quel état il est. Et il court à sa rencontre. Le fils, il révèle cela. Le père qui court à notre rencontre. Et donc, vous voyez, c'est pour que nous soyons vraiment libres que le Christ nous a libérés. Et cette liberté qui nous a été rendue, c'est le don de la grâce. C'est ce que dit saint Paul dans la lettre aux Romains. Sous l'ancienne alliance, Les hommes vivaient sous le joug de la loi. Mais la loi agissait comme un révélateur du péché. Tu ne commettras pas d'adultère. Ah oui, c'est tout. La loi ne sauve pas, dit saint Paul. La loi révèle le péché. Elle a un tel idéal que c'en est un fardeau. Un jour, ce qu'un jeune adolescent qui était en étude de lettres, quelqu'un de très très brillant, il avait une vingtaine d'années, très très brillant, rentrait dans les églises parce qu'il était attiré par les églises, mais il était juif. Alors il voulait discuter avec moi. Et puis on a lu un petit peu quelques passages de l'évangile, de la Bible ensemble, et de l'évangile, parce qu'il avait lu toute la Bible, y compris l'évangile. Et j'avais dit, mais comment se fait-il que tu lises l'évangile? Il dit, mais j'essaie de comprendre. Alors comment tu fais pour lire l'évangile, toi qui es juif? Eh bien, je m'arrête à chaque citation de l'Ancien Testament et puis je vais voir. Il nous apprenait comme ça à lire la Bible. Et donc, il disait, je prends l'évangile de saint Matthieu, chapitre 11, verset 25 et suivant, en disant, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous soulagerai. Prenez sur vous mon joug, car mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Et je lui dis, mais comment tu comprends cette phrase? Et alors, il réfléchissait toujours quelques secondes avant de répondre. C'était très impressionnant. Vraiment une sagesse juive, très forte. Et il disait, le fardeau, pour nous, c'est la loi. Alors moi, je dis, mais pourquoi le fardeau, c'est la loi? Mais parce qu'il y a plus de 600 commandements. On ne peut pas tous les appliquer et on s'aperçoit à la fin de la journée qu'on reste pécheur. La loi est un véritable fardeau. Et je dis, voilà, et le Christ, lui, il apporte la grâce. Dans la nouvelle alliance, nous sommes sous le régime de la grâce. Gratuitement, le salut nous est donné. Le salut est donné à celui qui croit. C'est extraordinaire. Mais celui qui croit, vous voyez, il a une démarche à faire. Il va vers le Christ. Il va vers la croix, plein de confiance. Parce que celui qui passe par l'épreuve de la croix, le Christ, lui fait comprendre que l'amour est vainqueur. Et il est vainqueur du péché, de tout péché. Et il nous donne la grâce d'offrir nous-mêmes nos propres épreuves. Et en fait, voilà le dernier mot de tout cela. Si nous disons, Seigneur, Père, délivre-nous du mal, délivre-nous de tout mal, c'est pour acquérir cette liberté des enfants de Dieu, pour être vraiment libre. La liberté pour aller vers le Père. Et nous faisons ainsi la boucle du Notre Père. Parce qu'en étant vraiment libres, nous pouvons dire que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié. Il faut être vraiment libre pour sanctifier dans notre vie le nom de Dieu. Il faut être vraiment libre pour faire la volonté de Dieu. La boucle est bouclée. Vous pouvez remonter ensuite, voyez, vers les premières demandes. Parce que délivrer du mal, voyez, les demandes qui nous paraissaient si hautes au début de notre préditation, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ça nous semblait extrêmement haut. Et pourquoi? Parce que nous avons besoin, nous, d'être délivrés de tout ce qui nous entrave, de tout ce qui ne permet pas à la grâce en nous, dans notre vie, d'accomplir cette volonté de Dieu. Au fond, une fois qu'on a terminé le Notre Père, délivre-nous du mal, nous découvrons que ce que nous demandons dans ces 7 demandes, c'est de vivre le commandement de l'amour. Notre liberté nous est rendue afin que nous soyons capables de vivre par sa grâce les commandements de Dieu. comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Si vous gardez ma parole, dit le Seigneur, vous serez vraiment mes disciples. Et gardez sa parole. Pour garder la parole du Seigneur, il faut être délivré de tout mensonge. Pour garder en nous le Christ qui s'est défini lui-même comme le contraire du diable. Je suis le chemin, et Satan est celui qui se jette en travers du chemin. Je suis la vérité, Satan est le père du mensonge. Et je suis la vie, alors que Satan veut nous perdre. Il veut notre mort. Pour que nous vivions, pour que nous gardions cette parole, nous avons besoin d'être délivrés du mal. Agir en enfant de Dieu, acquérir cette liberté des enfants de Dieu, c'est entrer dans le grand commandement de l'amour, parce que la liberté est faite pour l'amour. Notre liberté est faite pour l'amour, parce que seul l'amour nous accomplit. L'amour dans la vérité. Seul l'amour nous accomplit dans le sens où l'amour est ce par quoi nous nous donnons. Et c'est dans le don de nous-mêmes que nous trouvons la plus grande joie. Nous ne sommes pas faits pour rester isolés en nous-mêmes. La vie éternelle, Père, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. La vie éternelle, c'est de te connaître, au sens biblique de connaissance, c'est-à-dire d'être uni à toi, pas simplement de te connaître comme les philosophes pouvaient dire quelque chose sur Dieu, de te connaître, de s'unir à toi. La liberté est ainsi essentielle à l'amour. Si nous ne sommes pas libres, nous ne pouvons pas nous donner. Mais elle est aussi au service de la paix, elle est aussi au service de la concorde. Le mal n'amène jamais la paix. Alors c'est pour ça que ceux qui s'attachent, c'est le dernier don qui s'attache à cette demande, c'est le don de sagesse. Le septième est le plus haut des dons de l'Esprit Saint. Parce que le don de sagesse, c'est le don par lequel nous allons ordonner par la vertu de patience. Nous allons ordonner les mots en vue du bien, M-A-U-X. Nous allons ordonner les mots en vue du bien. Nous supportons le mal dans l'espérance du bien à venir. Et nous cheminons dans la voie que le Christ nous a tracée. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, dit Jésus à Sainte Marguerite Marie. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes. Et il nous le dit à nous. Veux-tu participer à cet amour? Mais comment, Seigneur? Offre tout. Offre tout de ta vie. Offre toutes les dimensions de ton existence. Et là où tu vois ta faiblesse, là où tu sembles qu'il n'y a pas d'issue, dis-toi bien que c'est ma puissance qui se déploie dans ta faiblesse, pourvu qu'avec moi et avec ma grâce, tu entres dans le combat de Dieu. N'aie pas peur de ta faiblesse, ce n'est que le diable qui t'a donné l'illusion que tu pouvais être par toi-même un Dieu. Accepte ta condition de créature et accepte que ce soit moi qui te sauve. Ça, c'est la vertu de sagesse. C'est le fiat de Marie. Le fiat de Marie, c'est cela. Oui, Seigneur, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon sa volonté. Voilà la sagesse. C'est parce que la Vierge Marie accepte le dessein de Dieu sur elle. C'est parce qu'elle accepte d'être servante. Il faut voir où ça va la mener, hein. Ça va la mener jusqu'au pied de la croix. Ça va la mener à être debout près de son enfant. Celle qu'elle a tenue dans ses bras, celle qu'elle a aimée, celle à qui elle a appris à parler. Celui auquel elle a appris à prier. Elle le voit condamné comme le dernier des malfaiteurs. Et pourtant, elle est debout, dans la foi. Dans la foi. Et elle ordonne à ce moment-là tout le mal qui s'acharne contre lui, dans le silence de sa prière, elle l'ordonne au bien que Dieu est en train de réaliser. Voici que je fais toute chose nouvelle, dit le Seigneur. Voilà le don de sagesse dans la Vierge Marie. Voilà la patience. Voilà la persévérance. Voilà la fidélité. Voilà la confiance. La sagesse, c'est vraiment le don qui couronne tous les autres. C'est pour ça qu'on appelle la Vierge Marie le trône de la sagesse. Le don de la sagesse nous unit à la volonté de Dieu. Il nous donne d'aimer ce qu'il aime, de la manière dont il l'a créé, pour la fin qu'il lui a assignée. Demandons à la fin du Notre Père, demandons à la Vierge Marie de nous donner, de nous apprendre l'art d'aimer. De reconnaître l'amour que Dieu a pour nous. La Vierge Marie peut nous apprendre à dire le Notre Père. Parce que quand vous reprenez les sept demandes, vous découvrez que en elle, le nom de Dieu a été sanctifié. Elle est pleine de grâce. En elle, le règne de Dieu a été enfanté. Parce que le Christ est le règne. Le règne est advenu en son sein. Que par son fiat, elle a fait la volonté de Dieu. Que par elle, le Seigneur s'est fait le pain de et notre nourriture. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Que la Vierge Marie nous apprend à pardonner parce qu'au pied de la croix, elle n'a pas cherché qui était coupable de cette crucifixion injuste. Mais qu'elle a pardonné à tous les hommes. Comment voulez-vous qu'une mère de famille, qu'une mère, en voyant son fils pendu au gibet, et cette attitude de pardon et de miséricorde. Elle, parce qu'elle est immaculée conception, n'a jamais été soumise à la tentation. Ou elle n'a jamais été... n'a jamais fait le jeu de la tentation. Pourquoi ? Parce qu'elle a été habitée par la parole de Dieu. Elle n'a jamais dialogué avec le diable. Et elle était de fait la première à être délivrée du mal. Elle est donc par conséquent la figure de ce qui nous est promis. Voilà pour ce cours. Donc, certains m'ont demandé si l'année prochaine il y aurait un autre cours ou une autre série.